Mémoire d'un jeune homme rangé, sixième partie. Chapitre 27. Sagesse nocturne. Pour l'unique voyageur qu'il déposa à 1 heure du matin sur le quai de la gare, le train de Paris fit vraiment un bruit exagéré. Daniel donna son coupon de retour à l'employé des billets, qui parut d'ailleurs aussi indifférent devant cette maigre récolte que pour les 1000 petits cartons dont les voyageurs du dimanche lui remplissaient les mains. Daniel envia ce fonctionnaire modeste et les longs sommeils insouciants qu'il devait goûter tous les jours après son service de nuit. Lui, pour l'instant, n'avait pas le cœur à dormir. Il ne put se résoudre à rentrer chez lui tout de suite. Il préféra errer une partie de la nuit dans les rues de Bernainvilliers, que les villas bordaient de feuillages sombres. Il prit l'avenue circulaire. C'était par hasard, sans doute, le chemin de la maison Voreau. En temps ordinaire, il n'était pas homme à faire des promenades de nuit. Mais le manteau romantique imaginaire dont il se drapait le préservait de toute crainte, en ce pays d'ailleurs paisible. Cependant, il eut un léger frisson en passant auprès d'un monument érigé dans un carrefour à l'endroit où des gens étaient morts pendant la guerre. Il se souvint qu'un soir de l'été précédent, lui et Julius s'étaient fait peur en se racontant des histoires. Aussi avaient-ils passé une partie de la nuit à se reconduire l'un chez l'autre. Chaque fois qu'on allait atteindre une des deux maisons, celui dont ce n'était pas la demeure ranimait la conversation sans en avoir l'air, afin que l'on pût revenir sur ses pas. À la fin, Julius avait eu le dessus dans cette lutte inavouée. Arrivé devant sa grille, il allégua une telle fatigue qu'il fallut le laisser aller se coucher. Daniel, d'ailleurs, aussitôt seul sur la route, avait eu beaucoup moins peur. Il faisait tête aux embuscades de l'ombre, et sentait grandir son courage. L'esprit de Daniel séjourna quelques instants dans ses vieux souvenirs. Puis la piste de Julius le ramena naturellement aux révélations récentes. Il revit quel visage implacable avait son ami en lui dénonçant les relations de Berthe et d'André Bardot. Alors, il imagina Berthe installée sur les genoux d'André, tandis que déjà Louise Loison, près de la porte, faisait le guet. Il vit Berthe se pencher sur André, l'embrasser dans le cou, au-dessus du haut col blanc. Elle avait baisé de ses lèvres cette peau étrangère, cette peau dure de blond rasé. Il y avait donc dans le passé de Berthe le souvenir de ses contacts. Il y avait un souvenir qu'elle lui avait caché. Sa vanité s'irritait de cette dissimulation, et qu'il eût existé entre André et Berthe un secret dont lui, Daniel, avait été exclu. Il ne se disait pas que la dissimulation de la jeune fille ressemblait beaucoup à un oubli. Il ignorait encore à cette époque que certaines jeunes femmes, dès qu'elles entrent en relation sentimentale avec un monsieur nouveau, mettent en son honneur une mémoire propre, toute neuve, sans une tache et sans un pli. Nerveusement, il traîna sa canne en travers sur les barreaux d'une grille. Un bruit violent se fit entendre, qui, dans la maison endormie, dut réveiller des têtes anxieuses. Soulevée brusquement au-dessus de l'oreiller, elle guettait maintenant le retour d'un bruit pareil. Daniel se mit alors à rire et recommença le même bruit sur une autre grille pour s'amuser. La sensation qu'il goûtait, au souvenir des enlacements de Berthe et d'André, ne lui était vraiment pas trop déplaisante. D'imaginer avec une certaine rage le plaisir que cet autre avait eu en serrant dans ses bras le souple corps de Berthe, c'était encore une façon de retrouver soi-même ce plaisir. Et puis, la ferveur d'André ranimait la sienne. L'hôtel qu'il était un peu las d'adorer avait retrouvé son prestige en s'enrichissant d'un nouveau fidèle. Ce qui l'avait tout d'abord attiré vers Berthe, c'était le besoin de familiariser cet être charmant et lointain, de voir prendre à cette jolie fille des attitudes d'amoureuse. s'il eût été plus âgé, il eût peut-être éprouvé autant de joie et plus de joie délicate à voir ses beaux bras enlacer un autre cou que le sien. Mais à 20 ans, la si pure satisfaction de regarder les dames est gâtée par le désir de profiter de leur faveur, si déplorablement identique. Et l'on abandonne cette attitude si commode, si désintéressée, du spectateur, libéré de la préoccupation d'un rôle à tenir. Il était une fois une baguette de bois que l'on avait plantée dans un vase pour soutenir une plante grimpante, qui n'attendait que cet instant pour grimper. La petite baguette en avait conçu un grand orgueil. Elle se disait que c'était grâce à elle, à cause d'elle, que la plante croissait et se contournait en des enlacements si gracieux. Elle ne pensait pas que beaucoup d'autres baguettes eussent rempli ce glorieux office. Le dernier jeune homme, distingué par Mademoiselle Voreau, était arrivé jusqu'à la maison de sa bien-aimée. À travers la grille, il contempla le jardin immobile, qui, sous la lumière de la nuit, avec la balustrade du perron, ressemblait à ces paysages gris-perles où les photographes du Second Empire aimaient à placer nos oncles en redingote, à la barbe ronde et aux cheveux bouclés sur l'oreille, et aussi le cousin que personne n'a jamais vu, le digne chef de bataillon, pacifique ornement des albums. Daniel, soutenu par l'idée qu'il accomplissait un acte de prodigieuse audace, pénétra dans le jardin par la petite porte du coin qu'on ne fermait pas. Il s'approcha à une 20aine de pas du perron et resta derrière un arbre de la pelouse. Il regarda la maison muette où Berthe était couchée. Entre les autres fenêtres du premier étage, sa fenêtre dormait, les volets fermés. C'était derrière ces volets, sur un lit étroit, laqué de blanc, que sa fiancée était étendue. Daniel l'imagina, les cheveux en désordre, l'épaule peut-être découverte, et il sentit qu'entre les draps fins, la jambe de Berthe touchait son autre jambe nue. Quelques jours auparavant, elle avait été souffrante et était restée au lit pendant une journée. Le jeune fiancé avait été autorisé à aller la voir dans sa chambre, sous la surveillance de Madame Voreau, qui les laissa seule 1 minute pour chercher son ouvrage dans une pièce à côté. Berthe lui tendit les bras. Daniel, pour la première fois, avait senti contre lui la forme et la chaleur de son corps. Mais l'absence de Madame Voreau s'était trouvée être trop courte et trop imprévue. Cet instant de plaisir avait manqué de préparation. Daniel l'avait revécu maintes fois en des regrets profonds. Il pensa maintenant qu'il était tout près de Berthe, qu'il n'avait qu'à gravir le perron, à traverser la salle, à monter l'escalier, à ouvrir doucement la porte de la chambre. Il se livrait en paix à ses imaginations, sachant bien qu'il ne pourrait jamais forcer les volets de fer des fenêtres aux vitrées qui donnaient sur le perron. Le charme de ses rêves n'était pas gâté par la possibilité et l'obligation de les accomplir. La grande raison, d'ailleurs, de sa quiétude, après la révélation de Julius, c'est que rien ne l'obligeait plus à agir. Du moment qu'il savait ce qui s'était passé entre Berthe et André Bardot, il n'avait plus à travailler pour sortir du doute. L'explication avec Berthe n'avait qu'une faible importance. Il se réjouissait seulement à l'idée de prendre, tour à tour, en lui pardonnant, l'attitude d'un garçon magnanime ou celle d'un esprit supérieur, dégagé de tous les préjugés. Et puis, ses parents à lui ne sauraient rien de tout cela. C'était l'essentiel. Il savait très bien cacher aux gens ce qu'ils ne devaient jamais savoir. Il se croyait pourtant incapable de dissimulation, mais en réalité, sa franchise n'était qu'une hâte craintive à s'accuser lui-même de ce qui pouvait être révélé par d'autres. En somme, du moment que la chose demeurait entre lui et Berthe, il en faisait son affaire. Il sentait bien que son roman avec Berthe n'était plus, après toutes les révélations sur la fortune et la conduite de sa fiancée, l'aventure rare, l'occasion exceptionnelle qui l'avait exaltée. C'était très bien encore, tel que cela était. Il était toujours installé derrière un arbre de la pelouse, et il n'y avait aucun motif pour qu'il quittât cette place. Mais il remarqua tout à coup qu'il ne pensait plus à rien et qu'il tombait de sommeil. Alors il reprit machinalement le chemin du chalet Pilou, monta chez lui, se coucha et s'endormit sans s'en apercevoir, ayant même négligé ce soir-là les formalités pourtant obligatoires qui précédaient son repos de chaque nuit, à savoir ronde d'exploration dans le salon et la salle à manger, double, triple et même quadruple vérification des deux robinets de gaz à la cuisine, seconde tournée sans lumière dans toutes les pièces précitées pour s'assurer qu'il n'y a aucune chance d'incendie, examen de l'escalier à ce même point de vue après avoir placé la bougie dans la chambre, fermeture, une fois rentré, de la porte de cette chambre en plaçant la clé sur la table de nuit, de telle sorte que la tige de cette clé reste parallèle à un des bords de la table. Cette dernière prescription ne reposant d'ailleurs sur aucun motif bien défini. En dernier lieu, examen des armoires à vêtements, du dessous du lit. Introduction d'une canne le plus haut possible dans la cheminée pour en scruter l'intérieur. Chapitre 28. L'attachement. Quand Daniel se rendit à la maison Voreau pour déjeuner chez sa fiancée, il marchait avec une certaine hâte, étant très pressé de pardonner. Il avait dormi profondément depuis la veille. À 8 heures, il avait chassé d'un grognement la femme de chambre qui venait ouvrir les volets. Elle était revenue vers 10 heures sur les injonctions de Madame Henri, qui n'admettait pas qu'on dormît toute la matinée. Une clarté barbare avait envahi la chambre. Il ne restait plus à Daniel que la cloison de ses paupières pour protéger la paix obscure de son âme contre l'invasion du jour. Et ce n'était plus la nuit que voyaient ses yeux fermés, mais une sorte d'ombre rose, fatigante. Il se retourna vers la ruelle et remonta son drap sur ses yeux. Cependant, toutes sortes d'obligations s'éveillaient en lui. Il fallait se lever, se laver, s'habiller, aller chez Berthe, parler. Rien que pour se lever, il faudrait quitter ses draps, mettre les jambes à l'air, chercher en gémissant sous le lit la pantoufle qui disparaît toujours, et toutes les formalités du lavabo. Il se rendormit lâchement pendant 2 minutes et rêva qu'il se levait. Oh, quel ennui que ce soit le matin et que la nuit clémente ne soit pas encore de retour. Et à peine levé, sans qu'il s'en aperçût, il fut tout de suite consolé de ne plus dormir. Il n'eut plus que le besoin de sortir, d'aller se promener. Depuis la grille, il aperçut dans la salle à manger des Voreau, Berthe, Madame Voreau et Louise Loison. La vieille grand-mère avait quitté Bernainvilliers depuis la veille. Elle était retournée à Paris, chez un oncle de Berthe, qui, pour 3 mois maintenant, en avait le dépôt. Daniel fut très content de voir Louise Loison. Il était embarrassé pour entamer la conversation avec Berthe. Louise serait l'intermédiaire indiqué. Mais sa joie d'apporter le pardon à sa bien-aimée tomba un peu quand il fut près d'elle. Tant d'événements étaient survenus depuis la veille, et Berthe avait passé, dans ses réflexions, sous tant de points de vue divers qu'elle lui semblait revenue d'un long voyage. Il l'avait vue tellement changée dans son âme qu'il fut blessé de lui retrouver le même visage. Il l'en accusa comme d'une hypocrisie. Elle portait toujours, avec son petit col blanc, la robe de drap gris unie qu'il aimait tant, qui la gardait jadis à lui comme un bien exclusif. Cette robe l'irritait maintenant. Elle lui semblait un voile de mensonge jeté sur un corps profané. Car Julius, certainement, n'avait pu tout lui dire. Rien de ce qu'on appelle décisif ne s'était sans doute passé entre André et Berthe. Mais que s'était-il passé? Daniel savait jusqu'à quelle licence peut aller l'impatience d'un amoureux. Ne s'était-il pas promis d'être magnanime ou insouciant? Mais il ne pouvait dominer son irritation. Il voulait se venger de Berthe, lui faire de la peine. Il lui rendit son baiser, cependant. Il ne fallait pas avoir l'air si fâché devant sa mère. « Vous rentrez toujours à Paris après-demain ?» dit madame Voreau quand on se fut mis tous les quatre à table. « Oui, madame, après-demain, » répondit Daniel avec beaucoup de déférence. Il lui plaisait d'exagérer ses prévenances, afin de montrer à Berthe qu'il avait beaucoup de respect pour cette mère dont elle n'était pas digne. À vrai dire, toutes ses intentions se lisaient difficilement dans le ton de ses paroles, mais il se figurait qu'on les devinait. La plupart des malentendus dont il souffrait venaient ainsi de ce qu'il se figurait être deviné. Il se trouva que le déjeuner était très bon et qu'il avait beaucoup d'appétit. Il sentait grandir en lui un besoin d'optimisme. Il écarta les soucis qui gênaient sa digestion. Pourquoi supposer des choses que l'on ne lui avait pas dites et que personne sans doute ne lui dirait jamais? Avant qu'on servît le café, il se leva de table et dit, en prenant un grand air de mystère, qu'il exagérait pour masquer son embarras, « J'aurais une communication très importante à faire à Mademoiselle Loison. » Ils allèrent tous deux dans le petit salon, pendant que Berthe restait à table avec sa mère. Berthe, quand Daniel s'était levé, lui avait jeté un regard inquiet, vite détourné. Elle avait semblé pâle et sérieuse, et c'est en remuant à peine les lèvres qu'elle avait répondu à une question de sa mère. Daniel en eut une grande pitié et résolut de hâter les confidences pour que Louise pût aller la rassurer plus vite. Ils restèrent, Louise Loison et lui, debout près d'une des hautes fenêtres. « Je commence par vous dire que je n'en veux pas à Berthe et que je lui pardonne tout ce que j'ai appris. « Vous allez encore me rapporter des histoires absurdes !» dit Louise avec une promptitude maladroite, et qui montrait bien que Berthe l'avait mise au courant des soupçons de Daniel. « Non, Louise, » dit Daniel un peu agacé, « je vous en prie, ne niez pas, ce sont des choses certaines. » Et il lui raconta les confidences de Julius, surtout préoccupé de trouver des mobiles généreux aux indiscrétions de son ami, parce qu'il croyait voir, chaque fois qu'il prononçait son nom, une expression de blâme dans les yeux de la jeune fille. « Et vous croyez cela ?»« Oui, oui, » dit Daniel, « je crois cela. Mais puisque je vous dis que ça ne fait rien et que je pardonne tout, Berthe ne m'a pas toujours connue. Si elle a aimé quelqu'un avant de me connaître, je n'ai pas le droit de le lui reprocher. Je voudrais que vous lui disiez vous-même, parce que ça me gêne de lui en parler. Que vous lui disiez qu'elle se tranquillise et que je lui pardonne tout. Je veux bien le lui dire, mais je vous assure que vous n'avez rien à lui pardonner. » Ils rentrèrent dans la salle à manger et reprirent place autour de la table. Louise, le visage grave, répondait d'un air distrait à madame Voreau, tout en coupant médiculeusement du bout d'un couteau à dessert les pelures de pommes qui restaient dans son assiette. Berthe eut le bon esprit de se lever la première et d'aller attendre son amie dans le salon à côté. Quand Louise l'eut suivie, ce fut le tour de Daniel de soutenir la conversation de madame Voreau et de lui répondre, complètement au hasard, sur divers projets de voyage et d'installation. Si madame Voreau avait eu quelque chose à lui demander, le moment eût été bien choisi, car il répondait, oui, avec empressement, et écartait tout sujet de discussion. Quelques instants après, Louise rentra auprès d'eux, et Daniel se leva pour aller rejoindre Berthe. Il eut un serrement de cœur en voyant le salon vide. Il ouvrit la porte de la lingerie. Berthe était sur un fauteuil. Elle avait les yeux dans un mouchoir minuscule où elle pleurait comme une pauvre petite fille, toutes les larmes de son corps. Il eut tout de suite l'impression d'une maladresse irrémédiable, d'avoir joué de ses mains brutales avec un jouet trop délicat. Il se mit à pleurer plus fort qu'elle, en marchant avec agitation, à pleurer sans retenue, si bien que sa douleur fuyait peu à peu dans ses sanglots. Madame Voreau accourut au bruit et vit leur vilaine figure. « Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pleure-t-elle » demanda-t-elle à Daniel avec sévérité, et comme si lui-même n'eût pas été en train de pleurer aussi. Mais il repartait en sanglots plus violents. Berthe se calma la première et dit en s'essuyant les yeux « Va-t'en, maman, ça ne te regarde pas. » Madame Voreau ne s'en alla pas et dit encore à Daniel « Je veux savoir pourquoi ma fille pleure. » Ce qui fit reprendre à Berthe tout son sang-froid. Elle dit à sa mère d'un ton décidé « Il ne te le dira pas, c'est notre affaire. » Daniel alla l'embrasser pour cette bonne parole. Elle se pencha sur son épaule. Il embrassa son charmant visage, mouillé de larmes, et aussi ses yeux plus tendres. Il l'embrassa avec ardeur, sans faire attention à Madame Voreau. « Vous savez peut-être pourquoi elle pleure ?» demanda Madame Voreau à Louise Loison, qui, après avoir essayé de la retenir dans la salle à manger, était venue, elle aussi, dans la lingerie. Louise Loison répondit à cette question par tous les signes en usage dans les différentes écoles de mime pour exprimer la plus complète ignorance. « Enfin, je ne sais pas deviner les énigmes, » dit Madame Voreau, en se contentant, faute de mieux, de ce faible mot de sortie. Louise Loison la suivit, pensant que les choses s'arrangeraient mieux si Berthe et Daniel restaient seuls ensemble. Daniel s'était assis sur le fauteuil. Il avait pris Berthe sur ses genoux. « C'était ainsi, » dit une voix maligne, « qu'elle venait jadis s'asseoir sur les genoux d'André. » Mais ça lui était bien égal. Une large affection qu'il n'avait encore jamais éprouvée anéantissait toutes ses hésitations et tous ses scrupules. Cette petite-là qu'il avait sur ses genoux, entre ses bras, il sentait bien qu'il ne se détacherait jamais d'elle. Il ne voudrait jamais qu'elle eût de la peine. Sa douleur n'était pas la même que les autres douleurs. C'était une douleur insupportable. Jamais il ne la quitterait en fermant une porte avec l'idée qu'elle était à pleurer derrière. Ce n'était pas adroit d'être ainsi pitoyable. Il l'eût dominée sans doute s'il eût paru plus fort. Mais, au risque de la perdre, il se retournait toujours pour regarder son visage et pour s'assurer qu'il n'était pas désolé. Dire qu'il l'avait connue, par hasard, il n'y avait pas un an de cela. Il avait pensé souvent « Je me suis engagé dans cet amour comme un promeneur sans but entre dans un chemin. » C'est vrai qu'une fois sur le chemin, je n'ai pu retourner sur mes pas. Mais quand j'ai pris cette route, aucune nécessité ne m'avait poussé aux épaules. Et cette Berthe que je ne connaissais pas il y a un an, elle est maintenant toute ma vie. C'est Berthe. La première fois qu'il s'était parlé au bal des Voreau, elle lui était apparue comme une jeune fille parfaite, comme celle qui le comprendrait. Et elle n'avait jamais rien compris de lui. Il avait pensé qu'elle aimerait de lui tous ses goûts, toutes ses ferveurs, toutes ses amitiés, l'affection qu'il avait pour ses parents, sa sympathie profonde pour Julius, et elle n'acceptait presque rien de tout cela. Il avait cru qu'elle n'avait jamais aimé que lui, et il était prouvé qu'elle en avait aimé un autre. Ainsi, rien ne subsistait de ce qu'il avait attiré vers elle, et elle le retenait cependant. Il était rare qu'il fût réellement heureux de l'embrasser. Il était là de ses baisers identiques, mais il éprouvait une joie certaine à la tenir enfermée dans ses bras et à se dire que plus rien jamais ne le séparerait d'elle. Et quand Berthe lui demanda « Alors, vous m'aimez toujours ?» il ne put lui répondre « oui », tellement il le pensait. Son mariage, qui lui avait toujours paru un événement irréalisable, lui semblait impossible à rompre maintenant. Il n'osa pas trop se rassurer, cependant, car il savait que le destin n'aime pas qu'on ait des certitudes. Il décida qu'il parlerait dès le même soir à M. Voreau pour avancer la date et laisser moins de champ aux malices de l'imprévu. « Comme on a été mauvais pour maman !» dit tout à coup Berthe en riant. « Il faut aller la voir !» Il la serra encore d'une longue étreinte, puis tous deux revinrent dans la salle à manger, où Madame Voreau, un pince-nez aux yeux, travaillait à une tapisserie. « C'est calmé ? » dit-elle. « Oui, maman, » dit Berthe en l'embrassant. « Embrassez-la » dit-elle à Daniel. Daniel, sans élan, mais avec beaucoup d'émotion, posa au hasard un petit baiser rapide sur la peau de front, sur du sourcil et un morceau de binocle. Chapitre 29. Épilogue. Le lendemain de son mariage, Daniel sortit, vers 5 heures du soir, de son nouvel appartement pour aller retenir des places au palais royal et pour rapporter à Berthe de ces petites épingles neige qui servent à maintenir les cheveux des tempes et du front. Il avait mis un volumineux par-dessus doublé d'astracan que la mère de Berthe lui avait acheté à l'occasion de son mariage. C'était la première fois qu'il l'endossait, et il arrivait à en être fier, avec un peu de bonne volonté. Il ne sentait pas le froid, mais il avait un peu mal à la tête et mal au cœur. Les jeunes époux habitaient un appartement au 4e étage, dans la rue Caumartin. On était à 2 pas de chez M. Voreau et à 10 minutes de chez M. Henri. Ils avaient une jolie chambre à coucher en peluche gris-argent, une salle à manger, très claire pour une salle à manger, avec des chaises en imitation de cordoue et une grande table carrée. Leur cabinet de toilette était tendu en étoffe pompadour. L'appartement comprenait encore 3 pièces vides et décorées à neuf, dont un salon assez vaste, meublé simplement d'un piano et d'un écran en tapisserie, cadeau de noces d'une vieille demoiselle que les Henri avaient connue à Vichy et qui était noble. Depuis qu'on était revenu de la campagne, le temps avait marché avec une rapidité inconcevable. 2 mois s'étaient écoulés sans qu'on s'en aperçût. Puis on avait dit tout à coup « Mais c'est mardi en 15 !» Et on n'avait même plus eu le temps de compter les jours. On était arrivé sans pouvoir s'arrêter jusqu'au jeudi du contrat. Puis on s'était retrouvé d'un bond au mariage civil à la mairie de la rue de Rouault. Berthe avait une robe de satin gris broché et pour la première fois un chapeau à brides. Ses amis et de vieux oncles étaient venus lui dire, après les paroles sacramentelles du maire, « Embrasse-moi, madame !» Cette plaisanterie rituelle n'avait pas déridé le garçon de mairie. Un homme à boutons de métal, dont la vie normale se mêlait chaque jour à la vie exceptionnelle de gens heureux qu'il ne connaissait pas. Puis, le lendemain, après les fleurs, la musique et l'ahurissement du mariage religieux, le lunch, chez les Voreau, avait donné lieu à 1000 salutations, force présentation. Daniel gardant l'attitude du jeune homme qu'on envie, obligé d'être amoureux et d'être heureux pour ne pas contrarier tous ces gens qui s'étaient dérangés et qui avaient imaginé à son propos une légende d'amour qu'il n'eût point osé démentir. Vers 6h30 du soir, on leur avait servi à tous deux un petit dîner substantiel. Puis, ils étaient partis avec mystère, guettés malicieusement dans l'antichambre par les petits garçons de 14 ans. Le coupé au mois de M. Voreau les avait conduits rue Caumartin. L'oncle Émile, l'après-midi, n'avait pas manqué de prendre Daniel à part pour lui recommander de ne pas brutaliser Berthe. Il avait employé des expressions anatomiques avec une gravité indécente. Il avait ajouté que la nuit de noces laisse une impression définitive dans l'âme d'une jeune femme, et que c'est bien souvent de ce moment-là que dépend le bonheur de toute une vie. Personne ne se trouva pour dire à Daniel que c'était lui-même surtout qu'il ne fallait pas fatiguer, et qu'il importait de ne pas courir constamment au-devant de la satiété. Quand il était entré dans le lit nuptial, Berthe et lui avaient eu une seconde de joie véritable, un frémissement de bonheur, à s'enlacer, à se sentir si près l'un de l'autre, à mêler la chaleur de leur corps. Puis, Daniel avait gâté cet instant par une hâte maladroite. Il craignait toujours de ne pas paraître assez pressé. Berthe s'endormit vers minuit. Daniel tâcha de rester éveillé parce qu'il avait peur de ronfler. Jusqu'au petit jour, il dormit en croyant qu'il ne dormait pas, par petits sommes entrecoupés. Berthe ne remuait pas. Daniel s'était blotti sur le devant du lit par crainte de la réveiller. Il était triste. Il lui avait toujours semblé que la nuit de noces devait se passer dans une sorte d'ivresse paradisiaque. Et voilà que l'on dormait. C'était une nuit de noces manquée. Puis il s'endormit sérieusement et se réveilla vers 10 heures du matin. Il chercha où il était. La ligne de lumière verticale qu'il voyait tous les matins entre les rideaux de la fenêtre n'était pas à sa place familière. Il regarda les meubles avec stupeur. Il se souvint qu'il était marié. Au dehors, un jour d'hiver, humble et résigné, attendait patiemment qu'on ouvrît la fenêtre. Ce n'était pas la fougue envahissante des matins d'été. Daniel se retourna et aperçut le dos de Berthe, qui dormait toujours sans bouger. Il s'était beaucoup fatigué la veille au soir et n'avait pas assez d'énergie pour être heureux. Mais il avait besoin de bonheur et chercha avidement des raisons d'être content de son sort. La meilleure qu'il trouva fut qu'il n'aurait rien à faire pendant 15 jours et que personne ne lui dirait de travailler. Que de fois ils avaient parlé, Berthe et lui, de ces 2 semaines de bonheur où ils vivraient isolés dans leur amour, sans voir personne. Berthe avec Daniel, Daniel avec Berthe. C'était leur sujet de conversation favori et qu'ils retrouvaient toujours quand les autres venaient à manquer. Il s'était couché la veille avec l'idée qu'il ne se lèverait que le surlendemain. Daniel pensait maintenant qu'il vaudrait mieux sortir l'après-midi pour faire un tour ensemble sur le boulevard et aller le soir au théâtre. Il se leva doucement et gagna le cabinet de toilette. Il se rafraîchit le visage avec de l'eau froide et de l'eau de Cologne et revint se coucher. Il éprouva une sensation agréable en se retrouvant dans le lit chaud, mais il s'était un peu refroidi dans le cabinet de toilette. Berthe grogna doucement en dormant et le repoussa d'un petit coup de pied, le premier coup de pied conjugal. Il attendit quelques instants, le temps de se réchauffer. Puis il s'approcha d'elle et une fois de plus la prit dans ses bras. Dès qu'il sentait son amour renaître, il se hâtait naïvement de l'épuiser. Quelques instants plus tard, Jacqueline, la femme de chambre de Madame Voreau, qu'on leur avait prêtée pour quelques jours, frappa à la porte. « Entrez !» dit fièrement Berthe. Tous deux, couchés côte à côte, la regardèrent en riant. Elle leur dit « Bonjour, monsieur, madame !» et demanda s'ils voulaient déjeuner. Elle avait été chercher 2 œufs et 2 côtelettes. Fallait-il servir le déjeuner sur une petite table dans le cabinet de toilette ? Mais ils étaient trop impatients de déjeuner seul à seul dans leur salle à manger. Berthe, après une toilette rapide et provisoire, mit un peignoir blanc et tous deux s'installèrent en face l'un de l'autre, de chaque côté de la grande table carrée. Le feu était allumé depuis peu et il faisait un froid de loup. Ils durent aller chercher tout ce qu'ils possédaient de manteaux et de fourrures. Sur la nappe neuve, brillante, coupée de raides cassures, il y avait un huilier et une salière. Le morceau de gruyère les fit rire, tant il était petit. Après déjeuner, Berthe rentra dans son cabinet de toilette, et Daniel, sans en avoir l'air, alla se rendormir sur le lit. Vers 2 heures, un coup de sonnette l'effraya. Il se réveilla tout honteux comme s'il eût été en faute. On vit apparaître Madame Voreau, qui prit son air le plus naturel pour leur dire bonjour. Daniel ne s'attendait pas à la voir si tôt. On avait dû comploter cette visite à son insu. Mais il n'en fut pas mécontent. Quand Madame Voreau, au bout d'une heure, fit mine de s'en aller, on la retint énergiquement de part et d'autre. « Restez donc, madame, » dit Daniel. « Il faut que j'aille chercher des places au théâtre. Vous resterez avec Berthe pendant ce temps-là. » Il s'en alla à pied au palais royal. Il cherchait les glaces des devantures et s'y regardait dans son pardessus neuf en pensant « Je suis marié. » Il avait dit qu'il serait absent une demi-heure et il s'aperçut qu'il était parti depuis 40 minutes. Consterné, il prit une voiture pour rentrer rue Caumartin. Qu'allait-il dire à Berthe? Le lendemain de son mariage, s'en aller comme ça et lui manquer de parole? Il la trouva causant paisiblement avec sa mère. « Vous avez pris les places ? » dit-elle. « Oui, une baignoire. »« Pourquoi n'avez-vous pas pris 2 places ? C'est bien suffisant. » « J'ai pris une baignoire pour être seule ensemble, et puis je croyais que vous ne vouliez pas être vue. » Madame Voreau se leva pour les laisser seules. Ils n'osèrent plus la retenir. Mais au moment où elle mettait son chapeau, Berthe prit Daniel à part. « Puisqu'on a 4 places, si on emmenait maman et papa ?» Daniel se donna l'air d'hésiter. « Si vous voulez. »« Maman !» dit Berthe. « Veux-tu venir avec nous au palais royal ?» Madame Voreau répondit « Non, mes enfants, vous êtes bien gentils. Je ne veux pas vous gêner. »« Tu ne nous gênes pas !» dit Berthe. « Allez-y seule !» dit Madame Voreau. « Mais savez-vous ce que vous devriez faire pour faire plaisir à papa ? Venez dîner chez nous, au lieu d'aller au restaurant vous abîmer l'estomac. »« Il n'y a personne chez nous ?» dit Berthe. Il n'y a que papa et moi. Nous étions tout tristes de déjeuner seuls à midi. Berthe regarda Daniel. Qu'est-ce que vous en dites? Daniel l'attira à lui et l'embrassa tendrement, comme s'il eût été prêt au plus grand sacrifice. Tout ce que tu voudras. Eh bien, c'est entendu, dit Madame Voreau. Je rentre chez moi pour dire que vous dînez. « N'arrivez pas trop tard si vous voulez arriver de bonne heure au théâtre. » À peine avait-elle refermé la porte que Daniel et Berthe s'embrassèrent fougueusement, comme s'ils s'abandonnaient à une ardeur longtemps contenue. Il l'entraîna doucement dans le cabinet de toilette et l'assit sur ses genoux. « Tu m'aimes ?»« Je t'aime, » dit-elle. « Je suis sortie 3 quarts d'heure, » dit-il. « Et j'ai trouvé le temps terriblement long après toi. Nous ne nous quitterons plus jamais. »« Jamais, jamais, » dit Berthe. « Je resterai toujours, toujours avec toi. »« Tu resteras toujours, toujours avec moi. »« Laissez-moi m'habiller, » fit-elle. « Il ne faut pas arriver trop tard chez maman. » Quand ils arrivèrent chez Madame Voreau, il semblait qu'il revenait d'un long voyage. Berthe dit à la femme de chambre « Bonjour, Louise. » Et la femme de chambre répondit « Bonjour, mademoiselle. » Cette méprise fit beaucoup rire la nouvelle mariée. Elle la raconta à Daniel, qui n'eut pas de peine à en rire beaucoup lui aussi. Daniel se sentait plus heureux. Il regardait Berthe et pensait qu'il était chez les Voreau et qu'elle était sa femme. Ils allèrent dans la chambre de Berthe, ils aperçurent son lit de jeune fille et firent une folie que Daniel jugea exceptionnellement perverse et qui eut pour résultat de lui faire perdre encore une fois sa bonne humeur. Après le dîner, on parla à nouveau des deux places libres dans la baignoire et M. Voreau se laissa tenter. On jouait un vaudeville en trois actes, le porte-allumette. Daniel ne prit aucun plaisir au premier acte, préoccupé de savoir si Berthe s'amusait. À l'entracte, il se pencha vers elle. « Vous ne vous amusez pas, » fit-il tristement. « Si, » répondit-elle avec bienveillance. Il se pencha plus près d'elle. « Tu m'aimes toujours ?»« Oui, » dit-elle. Il l'emmena au foyer en lui donnant le bras et lui nomma sur le grand panneau peint les anciens acteurs du palais royal, dont les noms sont d'ailleurs écrits en toutes lettres. Berthe, parmi les spectateurs, aperçut un drôle de couple, une petite femme en cheveux, en robe jaune, et un grand monsieur, dans une redingote un peu surannée. Daniel parut les trouver excessivement amusants. Chaque fois qu'il passait auprès du couple, il se penchait contre Berthe et feignait d'éclater, si bien qu'à la fin, elle ne rit plus du tout. Après le théâtre, M. et Mme Voreau résistèrent à l'offre du souper. « Non, non, » dit tranquillement M. Voreau. « Amusez-vous, les jeunes. Les vieux préfèrent rentrer se coucher. » Daniel conduisit Berthe dans un restaurant du boulevard, très élégant. Ils étaient seuls dans une salle. Berthe disait « J'aurais préféré un endroit où il y a du monde. » Daniel, désespéré, s'écria « Oh, si j'avais su, je croyais au contraire que vous ne vouliez pas qu'on vous voie. » Berthe dit « Nous pourrions nous en aller et souper ailleurs. » « C'est bien difficile, » dit Daniel. « De quoi aurions-nous l'air ?» Berthe ne voulut ni manger ni boire. Daniel finit par lui faire prendre un petit verre d'anisette. Il se força à manger de la viande froide pour ne pas être venu là sans rien prendre. Daniel parla de la pièce du palais royal, puis de certains incidents du mariage. Mais toutes les conversations s'éteignaient après deux ou trois répliques. Berthe finit par lui dire « Si on rentrait, je tombe de sommeil. » Dans la voiture, il la prit dans ses bras. Il mit ses lèvres sur les siennes et, dans cette attitude de recueillement, chacun d'eux songea à ses affaires. Daniel était très fatigué et se demandait s'il lui serait possible de s'endormir tout de suite une fois arrivé. Il se déshabilla et se coucha le premier pour chauffer le lit. Elle était très longue à se déshabiller. Quand elle vint le rejoindre, il la prit dans ses bras. « Oh » dit-elle, « laissez-moi dormir, j'ai trop sommeil. » Il lui tourna brusquement le dos, comme s'il était très fâché. « Qu'est-ce que vous avez ? » dit-elle alarmée. « Daniel, vous n'allez pas faire le méchant. » « Vous ne m'aimez plus. » Très énervé, il se mit à pleurer silencieusement. Elle lui passa la main sur la figure et sentit ses larmes. « Oh, mon chéri, pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Et elle se mit à pleurer aussi. Alors il la prit dans ses bras. Après une étreinte frénétique et qui lui sembla très longue, il l'embrassa tendrement sur les yeux, l'installa du côté de la ruelle, lui-même vint s'allonger sur le devant du lit. Moins d'une minute après, le couple dormait d'un sommeil profond.